Bah, je pense que tu le dis, je sais pas si c'était dans la préface ou l'intro que tu l'abordes, effectivement que les précédents récits autorisés entre guillemets par les maisons d'édition concernant le sujet trans, ou du moins la question trans, n'étaient que de l'ordre soit de la fiction, soit de l'autobiographie, soit de l'analyse faite par des psys. Donc effectivement le créneau histoire était une place à prendre, certainement. Oui.
Elle est d'autant plus à prendre que cette histoire s'appuie sur des archives écrites, certes, mais sur des archives orales. Et une certaine génération de trans est particulièrement vieille aujourd'hui. Il y a urgence à recueillir leurs témoignages, parce que si on ne les recueille pas aujourd'hui, on n'est pas assuré de pouvoir les recueillir dans 10, 15, 20 ans. La toute première génération de trans, c'est une génération qui est née dans les années 1920-1930. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de témoins qui ont de la mémoire et qui ne demandent qu'à partager ce vécu exceptionnel. Encore faut-il qu'il y ait des gens pour les écouter, pour les enregistrer. Mais c'est aussi ça, il y a eu un petit sentiment d'urgence aussi qui m'a donné envie de ne pas remettre à plus tard l'envie de faire ce livre. Parce qu'il y a des archives orales.
Je pense que j'aimerais bien qu'on reparle, mais plutôt vers la fin de l'émission, de la nécessité des archives trans.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Oui, on peut rebondir sur effectivement ce fameux centre.
Pas forcément le centre en soi, mais
oui, mais effectivement, l'intérêt, effectivement, de ne pas négliger ces archives. Tout à fait.
Alors, le contenu du livre lui-même, donc, qui n'est pas publié en librairie, mais qui est quand même intéressant d'expliquer là ce soir. Tu me disais tout à l'heure que tu avais fait un parti pris de départ, c'est de ne pas faire une historique depuis la Genèse, Nabucodonosor, et tu t'étais donc vraiment limité à une partie très particulière de ton étude historique.
Oui, dans l'introduction, j'essaie de délimiter un espace-temps pour un petit peu cadrer le sujet. Donc c'est la France au XXe siècle, et j'ai essayé d'aborder ça d'un point de vue foucauldien en disant que évidemment qu'il y a toujours eu des cas transsexuels. Simplement, moi, j'ai voulu le faire démarrer dans une conjoncture spécifique qui est en fait la rencontre d'une certaine technique qui est donc l'hormonothérapie inventée dans les années 1910 à Vienne par le professeur Steiner, en correspondance avec les travaux de Magnus Hirschfeld sur justement ce qu'il appelle les intermédiaires sexuels. Donc pour moi, c'est un petit peu l'oméga. Mais c'est un point de vue foucauldien, au sens où, comme le disait Foucault, l'homosexualité avait été créée dans la deuxième moitié du 19e siècle. Évidemment qu'il y avait eu des pratiques homosexuelles bien avant et de tout temps. Simplement, l'idée, c'était un petit peu de voir comment, d'un point de vue constructiviste, on arrive à un certain moment donné de l'histoire à pouvoir dire là, il y a quelque chose de foncièrement nouveau, parce que telle technique n'avait pas été inventée avant et telle théorie n'avait jamais été écrite avant. Et moi, c'est sur cette rencontre-là, c'est-à-dire la théorie des intermédiaires sexuels et les débuts de l'endocrinologie, lorsque Steiner arrive à faire des expériences et qu'il écrit des articles en disant voilà, j'ai transformé tel cobaye de sexe mâle en cobaye de sexe féminin et vice versa, il va y avoir là quelque chose d'absolument nouveau dans l'histoire de l'humanité. Pour moi, c'est le début du livre, qui donc, même si c'est une histoire française, commence en Allemagne.
Donc avant, il y a un avant et un après Magnus Hirschfeld.
Complètement,
donc,
oui.
Donc, et son institut de sexologie. Mm-hmm. Donc avant, tu dresses quand même un tableau assez complet de ce qui se passe avant, quand même. Mm-hmm. Il y a un certain nombre de choses qui existent.
Oui, il y a pas mal
Sans remonter au Chevalier d'Éon, même à...
Oui, effectivement, oui. Mais il y a déjà aussi tout un travail qui est intéressant, parce que au XIXe siècle, avec la création de la sexologie, enfin les premiers pas de la sexologie, on va de plus en plus consigner, même si c'est les psychiatres et les sexologues qui le font, on va consigner les paroles et le vécu des travestis, des hermaphrodites, et de tout un tas d'individus qui n'ont pas encore créé vraiment leur propre identité, mais qui vont le faire, ne serait-ce qu'en réaction à celle qu'on va leur coller dessus de la part des institutions médicales. Donc effectivement, on peut dire que Hirschfeld ne vient pas comme ça ex nihilo. Il s'inscrit dans essentiellement l'héritage de Ulrich, qui est le théoricien du troisième sexe, qui définit les uranistes, hein, c'est-à-dire ceux qui vont devenir les homosexuels, comme étant, si ce sont des hommes, une âme de femme dans un corps d'homme, si ce sont des femmes, l'inverse. Et c'est assez intéressant de voir comment finalement il va y avoir un glissement. Cette théorie étant censée être strictement homosexuelle, il va y avoir un glissement qui fait qu'à un moment donné, ça va servir au contraire à définir et promouvoir, dans, du moins dans le cadre de l'institut fondé par Hirschfeld à Berlin, le transsexualisme, qui est que justement il y a un sexe anatomique et un sexe psychologique, et que l'intérêt c'est d'utiliser les avancées de la science, et elle avance énormément à l'époque, pour faire concorder, coïncider ces deux sexes.
Alors, je pense qu'il est, important que tu rappelles un petit peu, parce qu'on ne le fait pas toujours, qui est Hirschfeld, mm-hmm. et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Qui est Hirschfeld et qu'est-ce qu'il fabrique à ce moment-là?
Alors, Hirschfeld est un médecin juif homosexuel qui est très investi dans la lutte contre le paragraphe 175, qui est le paragraphe dans le code pénal prusse qui... criminalise l'homosexualité masculine, plus précisément la sodomie. Dans son combat, il va, lui, ne pas se centrer sur les homosexuels, il va se centrer sur ce qu'il appelle les minorités sexuelles, parce qu'en fait, il va faire une typologie de tout ce qui n'est pas hétérosexuel. Et pour lui, ça inclut bien plus que les homos et les transsexuels. Il y a toute une typologie de ce qu'il appelle les intermédiaires sexuels. Et il va prendre la défense de tous et de toutes en prenant soin d'une part de les définir. Donc il va faire un travail qui est un peu l'équivalent de Krafft-Ebing, mais version non pathologique. La nuance est de taille. Ensuite, il va faire un travail de lobbying politique. Il a sa carte... je ne sais pas s'il a sa carte au SPD, mais en tout cas, il travaille... très fortement avec le SPD, qui est le parti socialiste allemand, et il va fonder en 1919, me semble-t-il, l'Institut de sexologie à Berlin, et c'est dans ce fameux institut qu'il va faire travailler des chirurgiens comme Abraham, qui va pratiquer les premières vaginoplasties, enfin pas les premières, mais en tout cas qui va pratiquer dans une optique militante, dans un centre prévu à cet effet, avec des patients qui savent très bien qui ils sont, où ils vont, des vaginoplasties, des mastectomies aussi. Et donc de ce point de vue là on peut dire que Hirschfeld a vraiment contribué au niveau européen à lancer vraiment à travers ce centre une espèce de foyer de réaction à la sexologie pour essayer de faire en sorte que la médecine, qui à la base était quand même relativement hostile aux minorités sexuelles, puisse avoir un a priori au contraire qui soit politiquement engagé pour une dépénalisation de tous ces comportements jugés déviants vis-à-vis de l'hétérosexisme. Et de ce point de vue-là, Hirschfeld va avoir un rôle fondamental dans l'histoire des transsexuels, puisque c'est lui qui va avoir qui va déjà créer la catégorie, en allemand le mot c'est transvestiten, mais c'est lui qui va déjà créer cette catégorie qui n'est pas l'homosexualité, qui n'est pas tout à fait le travesti, qui est déjà l'embryon du transsexuel. Et puis c'est lui qui va donner aussi une certaine publicité à une de ses patientes qui s'appelle Lily Elbe, qui est une peintre danoise, qui va être bien avant Christine Jorgensen la première. Parce que justement, quand je lisais le livre de Meyerowitz, on apprenait que Jorgensen était un petit peu le Stonewall du transsexualisme mondial. C'est faux. Bon, les Américains ont un petit peu tendance à toujours croire que tout commence aux États-Unis. C'est faux, en fait. C'est Lily Elbe qui vraiment bénéficie de la première couverture médiatique mondiale, notamment parce que, à sa mort, puisqu'elle décède suite à une greffe d'ovaire, parce qu'on pensait à l'époque, on avait vraiment confiance en technosciences, on pensait vraiment qu'on pouvait... lui rendre carrément la maternité. Donc on lui a greffé des ovaires, la greffe a mal pris, et puis finalement elle est décédée de suite de cette opération. Et suite à son décès, son ami journaliste allemand a fait une autobiographie qui a été traduite Men into Women, qui va être donc le premier ouvrage un petit peu destiné au grand public pour expliquer le vécu et la trajectoire d'une transsexuelle. Alors, vous savez qu'en 1933, les nazis débarquent, et donc une de leurs premières priorités, c'est de fermer et de saccager l'institut, de faire un auto-da-fé sur tous les livres de la bibliothèque. Et donc Magnus Hirschfeld s'enfuit en France. Et il faut savoir qu'à Paris, il va rencontrer une des pionnières, Michel Marie Poulain, qui justement se tâte à l'époque, n'est pas complètement sûr de passer à l'acte. Et donc, suite à la rencontre avec Hirschfeld, comme elle le raconte dans son livre, Confession d'un peintre, elle va se laisser convaincre, et elle va finalement prendre le parti de faire sa transition. Donc il y a une espèce de transition qui se fait à double sens entre la France et l'Allemagne, c'est que avec les nazis tout s'arrête en Allemagne. Hirschfeld s'enfuit en France, et en France il va un petit peu à travers Michel Maillepoulain déjà avoir au moins, j'allais dire, une héritière, du moins une cliente qui va donner une large battage médiatique au transsexualisme, puisque dans un hebdomadaire grand public qui s'appelle Voilà, qui paraît donc chaque semaine, elle va raconter sur plusieurs numéros dans les années, je crois que c'était fin des années 30, mais toutes les dates sont dans le livre, elle va raconter précisément sa transition auprès d'un large public et sans aucune expertise ou aucun préjugé transphobe de la part des journalistes. Donc c'est assez impressionnant de voir que les débuts ne sont pas marqués par l'hostilité qu'on va retrouver par la suite. Et puis la deuxième transition Allemagne-France se fait par l'autre pionnière, hein, qui est Marie-Andrée Schwindenhammer. Marie-Andrée qui, elle, va être déportée parce qu'elle est résistante, donc à titre politique, elle est déportée dans un camp à Struthof en Alsace, qui à l'époque est annexé au Reich. Et là, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait que lorsqu'elle revient en France, enfin lorsqu'elle est libérée des camps, elle s'assume comme femme. Et comme à l'époque elle vient d'une famille bourgeoise très riche qui n'accepte pas sa transition et qui donc songe à la déshériter en utilisant la thèse de la folie, elle est folle puisqu'elle est femme, elle est devenue femme. Du coup, la stratégie de défense de Marie-Andrée va être la suivante, c'est assez habile, elle va dire « Les nazis ont fait sur moi des expérimentations particulièrement folles, ils m'ont forcé à devenir la femme que je suis. Et donc, en quelque sorte, ce n'est pas ma faute si je suis celle que je suis. En tout cas, je continue à prendre quand même mes hormones parce qu'il n'est pas question, mais enfin bon. »